On continue dans Luc 10, donc on est au verset 25 du chapitre 10 de Luc. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit. Il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Il répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Va, et toi, fais de même. » Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. Pour beaucoup de choses, or une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Seigneur, on te demande de nous parler ce matin, de nous révéler ce que tu as à nous dire, chacun d'entre nous. Aide-nous à écouter, aide-nous à être à tes pieds ce matin. Entendons-nous, prions. Amen. C'est une histoire qu'on connaît, on connaît bien. Qui c'est qui a déjà entendu parler du bon samaritain ? Ça va ? On va dire que c'est dans la culture quand même, dans la culture générale, même de notre société. C'est toujours un petit peu difficile d'enseigner sur des passages comme ça où les gens ont déjà entendu, ont déjà... leur avis, ont déjà l'impression, oui d'accord, ça on connaît, bon, et après, parce que on se dit, mais on... D'une, pour les chrétiens qui ont été dans des églises, ils ont déjà entendu des enseignements, et on se dit, mais sans doute qu'il y a des pasteurs plus doués, et plus intelligents, et plus bénis, qui ont mieux enseigné sur la chose que moi. Et il y a aussi le danger toujours de passer sur ces textes, et de pas être attentif, et de pas écouter. Parce qu'on a déjà entendu, parce qu'on est blasé, parce qu'on a un texto ou autre chose auquel penser. Donc, on va essayer ce matin de regarder ça ensemble et d'en retirer quelque chose ensemble, j'espère. On va commencer avec ce spécialiste donc de la loi, ce docteur de la loi qui se lève et qui... Dans le texte, il est dit « Mais Jésus a l'épreuve ». Dans le caractère de l'époque, ce n'était pas forcément pour dire qu'il essayait de piéger Jésus ici. C'était une manière de discuter ou peut-être de vérifier un petit peu les enseignements de Jésus. Donc, c'est pas... nous, on regarde ça et on se dit « Mais il essaie de le piéger ou de le tester ». C'est un peu plus sournois dans nos esprits, mais ce n'est pas forcément l'idée ici. Et Jésus le reprend avec une question qui semble simple, mais qui était peut-être pleine d'une certaine ironie, presque de sarcasme. Et il lui dit, bon, bah, c'est toi le spécialiste de la loi. Vas-y, qu'est-ce qu'il écrit ? Comment tu le comprends, toi, puisque c'est toi le spécialiste ? Et au verset 27, le spécialiste lui répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus le félicite. Il lui dit, ouais, c'est ça, ouais. Et on va regarder peut-être plus en détail ce que ce verset 27 implique. En premier lieu, c'était pour les spécialistes de la loi quelque chose qu'ils avaient, pour certains, c'était vraiment la base de la base pour ces spécialistes de la loi à cette époque-là. Il y en avait certains qui l'avaient même attaché sur leur corps physiquement, ces choses écrites. C'était quelque chose d'évident pour le peuple à cette époque-là, et surtout pour ces spécialistes. Et donc c'est en deux parties, on aime Dieu et on aime les autres. Ça reflète, si jamais ça vous tente, allez regarder, relire les 10 commandements. Les 10 commandements se divisent en deux parties, une c'est aimer Dieu et une partie c'est aimer les autres. Vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse. Et qu'est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire aimer quelqu'un ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que je fais quand j'aime quelqu'un ? C'est pratique, c'est concret. C'est pas quelque chose de philosophique, de théorique. On va voir que le spécialiste, lui, essaie un petit peu à mon avis, de philosopher, de détourner la chose, de dire oui, alors, pour le sujet de bac cette année, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu ? Oui, alors, un tel a dit, etc., etc. Les gens que vous aimez, est-ce que vous les aimez en fonction de ce qu'un tel ou un tel a dit ? Non, on les aime en pratique, on fait des choses, on vit d'une certaine manière autour de ces personnes. On n'est pas... c'est pas des idées en l'air, c'est des actions, c'est une manière de vivre, c'est une manière de traiter la personne, c'est une attention, c'est quelque chose de très concret. Encore une fois, si vous voulez aller voir des choses concrètes, dans la Bible... Il y a les 10 commandements, il y a plein de choses. On va lire après dans 1 Jean que si on aime Dieu, ben on va lui obéir. Que aimer Dieu, ça veut dire lui obéir. Verset 27 encore, il précise que c'est de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Ça, c'est vraiment, ça va sans vraiment avoir à être expliqué. Je ne sais pas si vous avez été déjà amoureux vraiment de quelqu'un, ça vous vient facilement. C'est quelque chose qui découle dans vos pensées, dans vos actions, dans vos attentions, dans tout, il y a une intensité. Et aimer son prochain, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est la même idée. C'est la personne qui est différente. Et ici, il est spécifié comme toi-même. Et là aussi, c'est quelque chose de très pratique pour Jésus. C'est pas quelque chose de théorique, encore une fois. Dans Matthieu 7, 12, Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » Car c'est ça la loi et les prophètes. C'est l'idée que ce que j'aimerais que quelqu'un fasse pour moi, je le fais pour lui. Je l'aime comme j'aimerais qu'il m'aime. Je fais comme j'aimerais qu'il me fasse. Et ce spécialiste de la loi, lui, il, verset 29, il, il répond à Jésus. Jésus lui dit, oui, tu as bien répondu, si tu fais ça, tu vivras, tu auras la vie éternelle. Pourquoi, à votre avis, il veut se justifier ? Il ne répond pas simplement ici, il y a quelque chose en plus là, il y a quelque chose de sous-entendu dans la réponse de Jésus. Il y a souvent Jésus, dans ses réponses, surtout avec les docteurs de la loi, les spécialistes à cette époque-là, il y avait des piques qui étaient envoyées. Il maniait la rhétorique, il maniait leur manière de comprendre les textes, il savait ce qu'ils pensaient et il pouvait leur envoyer pas juste en répondant, mais vraiment en les piquant au vif. Alors, pour moi, en essayant de m'expliquer pourquoi ce spécialiste veut se justifier, moi, je vois deux possibilités. Soit soit tout simplement, il veut pas faire ça, il le comprend très bien, mais il n'a pas envie de le faire, donc il essaie de le redéfinir. Je dis, je vais un petit peu... j'en sais rien, moi, les Samaritains, pour vous, c'est facile. Si je vous dis aimez vos voisins, aimez vos prochains, je suis sûr que vous avez tous en tête des gens, immédiatement, que vous dites, ou vous pouvez vous dire, j'ai pas envie de l'aimer, je veux pas, c'est dur, c'est naturel, c'est tellement simple. Enfin, je sais pas vous si... moi, ça me semble tellement... Quand je lis ces paroles, quand je suis honnête face à ce texte, il y a certaines personnes que j'ai pas envie d'aimer, il y a certaines personnes que j'ai, ma chair me dit non. Et nous, on aime bien tordre les, ouais, bon, ben, alors on va redéfinir qui c'est mon prochain. On va dire que c'est mes amis, que c'est ma famille. Si j'aime ma famille, tout va, ça va, quoi. C'est bon, Dieu, j'aime ma famille, j'aime mes amis, j'aime mon prochain. On discute, c'est un peu comme quand les enfants, on leur dit de faire quelque chose et ils essaient de redéfinir la chose. Fais la vaisselle, j'ai fait mon assiette, c'est bon. On est comme des enfants face à Dieu. Alors pour moi, c'est soit ça... Soit le spécialiste de la loi, face à ça, il comprend très bien qu'il ne peut pas le faire. Jésus lui dit, ok, fais et tu auras la vie éternelle. Et lui, il dit, d'accord, mais je ne peux pas. Donc, tu me dis de le faire, c'est qu'il doit avoir c'est que je n'ai pas bien compris quel était ce que tu voulais dire. Parce que je ne vais pas y arriver. Ce qui serait peut-être un peu la manière peut-être plus honnête pour le spécialiste de le dire. C'est quelque chose qu'on peut pas faire en tant que nous-mêmes. Dans le texte, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que le spécialiste de la loi, finalement, qu'il dit, bon, aimer Dieu comme tu m'as demandé, c'est bon. Mais par contre, aimer mon prochain, ça, je suis un peu... On a l'impression qu'il est sûr du premier, mais du deuxième, là, il faut qu'il... Il y a quelque chose qui doit être changé. La Bible nous dit que la manière dont on traite les gens est une réflexion de la manière dont on considère Dieu. On va le lire dans 1 Jean, si on aime Dieu, on aime les gens autour de nous. Si on aime Dieu, on obéit. Et donc le spécialiste de la loi, lui dit, j'aime Dieu, mais les gens, c'est une incohérence. À l'époque, c'était une discussion courante. Les les spécialistes de la loi, par d'autres textes qu'on a, des commentaires, ils avaient plein de considérations. Alors oui, les prochains, c'est les Juifs, mais c'est pas les Samaritains, c'est pas les étrangers. Faut pas faire certaines choses. Il y avait même des règles comme quoi il fallait pas aider une femme non juive à accoucher parce que c'était d'une certaine manière aider un malheur, aider à ce qu'il y ait un autre non juif. Et pourtant, dans le Lévitique, dans le chapitre 19 du Lévitique, il y a le verset 18 qui dit « Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune envers les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Là, il disait « Bon, ça c'est mon prochain, c'est les Juifs, on est d'accord. » Et plus loin, au verset 34, « Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même. » Ce spécialiste de la loi, il connaissait ces paroles par cœur. Le Lévitique, il connaissait par cœur. Il avait appris par cœur. on est tellement bon pour tordre ce qu'on sait, pour ne pas accepter. La loi est dure. Dieu, quand il nous parle, quand on est face à la loi de Dieu, quand on est face à ces textes avec Jésus, la seule réponse, quand Jésus nous dit « Aime Dieu et aime ton prochain », c'est dire « Mais je peux pas, j'ai pas la capacité ». Et limite, je pense que Jésus aurait préféré que ce spécialiste de la loi lui dise « Je peux pas, aide-moi, qu'est-ce que je fais ?» D'accord, tu me dis c'est bon pour avoir la vie éternelle. Mais et c'est ce que Paul dit dans Romains 7. Est-ce que vous connaissez Romains 7? C'est avant un passage qu'on connaît bien mieux qui est Romains 8. Mais Paul dans Romains 7, il dit je sais le bien que je devrais faire et je le fais pas. Et le mal que je sais que je devrais pas faire, c'est ça que je fais. Il lutte, il dit « Mais Dieu, comment je fais ?» Dans Galates, dans Romains, dans pas mal des textes, on voit que qu'est-ce que Jésus dit en fait? Il lui dit au spécialiste de la loi, il lui dit « Bon, obéis à la loi et tu auras la vie éternelle. » La Bible nous montre que la loi... Obéir à la loi, on n'y arrive pas. La Bible, beaucoup de parties de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui nous dit, bon, tu veux avoir la vie éternelle, tu veux venir à moi, voilà, j'ai 10 commandements, vas-y. Et on n'y arrive pas. Et la Bible, c'est l'histoire de ça, sur des centaines, des milliers d'années qui s'amplifient. Et puis la résolution, Dieu qui dit voilà, vous n'y arrivez pas, on est d'accord, entre vous et moi on est d'accord, vous n'y arrivez pas, voilà ma solution. Moi, par ma grâce, par ma décision, j'ai une autre solution. Si les spécialistes de la loi pouvaient être justifiés en obéissant à la loi qu'ils connaissaient, il n'y avait pas besoin de Jésus, il n'y avait pas besoin de sa mort et sa résurrection. Dans Romains 3, 19, « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Dans Galates 3, verset 21, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Certes, non. » S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devait ainsi être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Dans Galates 2,16, « Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Christ Jésus, Nous aussi, nous avons cru en Christ Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ce spécialiste ne sera pas justifié par les œuvres. D'ailleurs, le texte, quand Jésus lui répond, il lui dit bien, il lui dit va, fais ça. À la fin, tout à la fin, verset 37, il lui dit va, et toi fais de même. Mais il ne parle pas de la vie éternelle. Nous, on aime bien discuter, on aime bien philosopher, on aime bien éviter le sujet, on aime bien, cette question-là du scribe, là, si c'est pas un sujet de philo, là, c'est qui est mon prochain? Je dirais, je suis limite s'il n'y a pas eu ça au bac, quoi, c'est vraiment, c'est caricatural, quoi, c'est fou, quoi. Comment un enfant répond à ce genre de questions? Simplement, il n'y a pas de philosophie. Oui, alors, si on prend les considérations métaphysiques de notre ami Jean-Jacques Rousseau, ou, etc., etc., un enfant, il vous répond, il sait qui est son prochain, il sait qui est son voisin, il sait qui y a autour de lui. Il répond avec des prénoms. Le Samaritain, donc c'est une histoire qu'on a déjà entendue. Jésus, pour répondre à sa philosophie, à sa question, il lui raconte cette petite histoire de l'homme qui descend à Jérusalem, de Jéricho, qui tombe au milieu de brigands, qui se fait voler, qui se fait taper, qui est laissé. Puis ces trois personnages qui passent, le prêtre, le lévite, puis le samaritain. Le voyageur, le personnage pour les juifs, ils auraient dit, mais il n'aurait pas dû se faire ce voyage seul. C'était une route qui était reconnue comme dangereuse. Ils auraient répondu oui, lui c'est de sa faute là, il est bête, il a fait une bêtise, tout le monde sait qu'il faut pas faire ça, c'est son problème, c'est sa faute à lui, je me jette sous une voiture ou je traverse la rue, j'essaie de traverser la voie rapide sans regarder, on va pas. Limite, on va me laisser, on va me dire, mais franchement, quoi, c'est son problème. C'est presque un gâchis de ressources de s'en occuper, quoi. Le prêtre, le sacrificateur, lui, il devait pas se rendre impur, donc il dit, c'est pas la peine que je m'en occupe. Je vais pas le toucher, je vais pas risquer, je sais pas s'il est mort ou pas, je vais éviter. Le lévite, lui, ça devait être un peu la même chose. On a l'impression dans le texte qu'il vient un peu plus, peut-être un petit peu voir. Il devait avoir de bonnes excuses, le lévite. Moi, j'ai toujours de bonnes excuses pour pas faire les bonnes choses que Dieu met devant moi. Puis le samaritain, lui, arrive, le voit. Il en a compassion. Il s'approche, il bande ses plaies. L'huile et le vin, c'était la médecine de l'époque. C'était les baumes, les produits qu'on peut trouver en pharmacie. C'est pour guérir les plaies, pour aider. Il le met lui-même sur sa monture. Donc lui, il marche. Il l'amène dans un endroit où il peut rester, il prend encore soin de lui, il sort 2 deniers, qui étaient une somme importante d'argent à cette époque-là, il le donne, puis lui dit, s'il en faut encore, je reviendrai, je repaierai. il y a une générosité, il y a énormément de d'amour et de l'action là est généreuse et extravagante et au-delà de ce qu'on pouvait attendre. Pour les Juifs, le fait que c'était un Samaritain qui donne le bon exemple, c'était une insulte. Enfin, c'était vraiment les Juifs et les Samaritains. On a déjà vu qu'ils s'aimaient pas, qu'il y avait toute une rivalité, que c'était en quelque sorte les hérétiques, ceux qui pas compris la loi, qui faisaient leur propre truc, qui s'étaient corrompus. Les Juifs étaient purs et eux, c'était Donc là, le fait que Jésus s'en serve pour montrer le bon exemple, là, les Juifs, ça devait les piquer vraiment au vif. Le verset 37 avec le spécialiste de la loi qui est obligé d'avouer que c'est le Samaritain qui a fait la bonne chose, on a l'impression que c'est un peu... Ouais, d'accord, c'est le... Ouais. Il peut même pas dire c'est le Samaritain, quoi. Il dit, ouais, c'est celui qui a fait la bonne chose. Parmi ces trois personnages, il y en a un qui se comporte comme doit se comporter quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, comme quelqu'un qui suit Jésus. Il n'a pas forcément de contrôle sur la situation, il ne choisit pas le moment, il faisait autre chose, on ne sait pas ce qu'il faisait, on ne sait pas d'où il venait, on ne sait pas où il allait, on ne sait pas de quoi il retournait. Mais confronté à une situation, il a une réaction où il sait ce qu'il doit faire. Parfois, moi, quand il y a des situations comme ça, où j'ai pas le contrôle, où quelque chose, quelqu'un a un besoin, une situation se présente devant moi, je sais pas quoi faire. Pensez-y à des situations où vous dites oui, alors j'ai pas les moyens. Je sais pas. Il y a des situations. Pensez à des situations où quelqu'un était devant vous et avait besoin de votre aide, quelle qu'elle soit, et vous vous êtes dit je sais pas. Parfois c'est gris, parfois c'est pas noir ou blanc, parfois c'est difficile. Mais on utilise toujours ça comme excuse. Encore une fois, comment réagit un enfant? Souvent, pour un enfant, c'est plutôt évident ce qu'il faut faire devant une situation. Alors, on n'est pas obligé de dire oui, il y a toujours noir et blanc, etc. Il y a des situations qui sont difficiles et on a besoin de Jésus, on a besoin du discernement qui vient de Jésus, de son esprit pour savoir faire face aux situations. On a aussi besoin de connaître sa parole, de l'avoir là, que ça devienne une habitude, que ça devienne un réflexe, que ça devienne quelque chose de naturel. C'est pour ça qu'on a besoin de la lire, de la prendre, de la méditer, de la digérer. On a besoin d'être changé par l'esprit. C'est pas notre nature. On le sait. On le sait tous que c'est pas de nous-mêmes, de notre chair, de notre bonne nature humaine que va venir le truc, que va venir la bonne réponse. Et quand on sait pas, on a peur. C'est l'inconnu. On sait pas. Et quand on a peur, on montre pas d'amour. On montre pas de grâce. On montre pas d'attente. On essaie de contrôler, on est sur la défensive, on s'accroche au truc qu'on. Et pour savoir, pour pas avoir peur, pour pouvoir aimer, on a besoin de connaître Jésus. Et pour ça, on va regarder l'exemple de Marie qui suit. On a besoin de passer du temps avec Jésus. n'y a pas de... J'ai envie de dire qu'il y a dans nos vies, dans la manière dont on réagit, il n'y a pas de miracle. Ce que vous dites des fois, moi je me dis des fois, oui, alors seulement s'il m'arrivait vraiment un truc, comment je pourrais dire, un truc, un miracle, quoi, un truc de fou, après ça ira, quoi. À partir de ce moment-là, ça va aller, quoi. Je m'attends, je vais aller dans la montagne, je vais attendre que Dieu se transfigure devant moi, et après je vais savoir, je vais bien me comporter, etc. La vie chrétienne, c'est pas ça. C'est une habitude, c'est une répétition. On devient ce qu'on fait de manière répétée. C'est des choix, et là aussi on va regarder avec Marie et Marthe les décisions et le fait que ça nous affecte pour savoir réagir de la bonne manière face aux situations que Dieu amène devant nous. Le Samaritain essaie pas de tout contrôler, il accepte ce que Dieu lui amène et il réagit en fonction. La vie chrétienne, on va jamais tout contrôler, on va jamais être tranquille, on va jamais être pépère à avoir notre petite vie bien ordonnée, bien rangée, bien tranquille. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ça la chose, c'est d'avoir l'ancre au milieu de la tempête, de savoir sur quoi on se tient. C'est les exemples dans la Bible, les paraboles que donne Jésus, c'est pas tu vas être de la petite maison dans la prairie et tranquille, quoi. C'est le rêve américain, quoi. T'as construit ta maison sur le roc pour que quand il y a les tempêtes, ça bouge pas. C'est l'ouragan qui vient. C'est les habitudes qui nous permettent de réagir quand il y a des choses qu'on ne contrôle pas qui vont venir. D'une certaine manière, la foi chrétienne est simple. On aime Dieu, on aime les autres. Et pour le faire, on doit passer du temps avec Jésus. On lit notre Bible, on la digère, on prie, on passe du temps avec d'autres chrétiens et on vit. Vous connaissez Michée 6:8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça semble simple, ça. C'est simple et c'est dur. C'est simple et on n'aime pas. Alors on philosophe. Le bon samaritain, ici, il fait le bon choix, il fait la bonne chose. Et Jésus retourne la question. Vous avez remarqué comment la question c'est « Qui est mon prochain ?» Et Jésus, il lui dit « Qui a été le prochain de l'autre ?» C'est pas qui est mon prochain, mais de qui suis-je le prochain. On aime bien toujours dire, oui, alors si les autres changent, ça va aller mieux pour moi, quoi. Il y aura le réveil quand tout le monde se mettra à lire sa Bible. Hein. Vous mettez à lire votre Bible pour qu'il puisse avoir un réveil, s'il vous plaît. Parce que moi, ça va. On est hypocrite. Je suis vraiment... Je lis ma Bible. Moi, je suis le prochain des gens autour de moi. Et notre relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les autres, révèle l'état de notre relation avec Dieu. Si on aime Dieu, on va aimer les autres. Ça, il n'y a pas moyen d'y échapper. Hein, on doit obéir. Si on aime Dieu, on va obéir. On n'a pas envie parce que ça nous coûte quelque chose, parce que c'est dur, parce qu'on a peur. Là, face à ces choses, face à ces textes, la Bible, Hébreu nous dit que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est un édredon super douillé où on va se mettre... Non, la Bible, c'est quoi? C'est une épée. C'est un scalpel. ça nous découpe, ça nous taille en pièces, ça nous casse, on le sait et on n'aime pas, ça nous opère. Vous aimez être opéré, vous? On récupère vite d'une opération. Pierre, on sait quelque chose en ce moment. Ça nous laisse sur le carreau. Ça divise, ça dévoile, ça nous montre ce qu'on n'aime pas voir. Ça, c'est violent. Et face à ça, encore une fois, on va regarder avec Marie, mais on a deux options. Soit on obéit, on change, et on devient plus comme Jésus et on entre dans un cycle vertueux de croissance spirituelle. Soit on n'obéit pas, on n'a pas envie d'écouter et on fait comme le spécialiste de la loi, entre guillemets, hein, et on le tord pour que ça s'adapte à comment on a envie de vivre. On se dit j'ai envie d'avoir une vie tranquille, donc les parties un peu techniques de la Bible, je vais dire oui, c'est une métaphore, c'est une analogie. On l'écoute pas et on l'interprète de la manière dont on a envie qu'elle se comprenne. Il n'y a pas de milieu. Et c'est un choix. Soit on l'accepte et on obéit et on change, soit on ne l'accepte pas et on ne va pas changer et on va tordre et on ne va pas comprendre la Bible. Nous, on pense que la sagesse vient par une compréhension, un truc. Si j'y réfléchis assez longtemps à ce texte, je vais comprendre comment Dieu veut que je l'applique dans ma vie. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit qu'on comprend, qu'on acquiert la sagesse, la compréhension quand on obéit. C'est en faisant, c'est en obéissant à Dieu. On fait confiance à ce qu'il nous dit, on l'accepte tel que c'est dit, et à ce moment-là, on va comprendre. L'obéissance est l'outil de Dieu pour nous donner plus de compréhension spirituelle, plus de clarté dans nos vies, plus de compréhension de qui il est. Si vous voulez savoir plus de choses à propos de Jésus ou de Dieu, obéissez. Et je dis ces choses en me les disant à moi. Hein. On est d'accord. Hein, j'avais pas envie d'enseigner ce matin parce que ça me. Hein, on, je, c'est nos options. Et c'est des choix qu'on doit faire. Et ces choix, on va regarder un petit peu avec Marthe et Marie. Verset 38. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds du Seigneur et qui écoutait sa parole. Marthe était absorbée par les nombreux soucis du service. Elle survint et dit « Seigneur, tu ne te mets pas en peine de ce que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Marthe et Marie connaissaient Jésus, c'était des amis, il y avait déjà une relation. Ne méprisons pas Marthe ici. C'est un peu comme Pierre. Il y a des réactions dans certains moments dans la Bible, mais ça ne veut pas dire qu'elle avait rien compris, qu'elle était contre Jésus. C'est pas ce qui est dit ici. Dans Jean 11. Verset 27, elle a une conversation avec Jésus et ça se termine par elle qui lui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » C'est la même chose que ce qui avait été révélé à Pierre. Elle a reçu des choses, c'est pas quelqu'un qui n'avait rien compris. Hein. Moi c'était ma manière de lire ce passage, de me dire « Marthe ». La différence, alors Marthe et Marie, qu'est-ce que fait Marthe? Elle veut aimer Jésus en le servant, en faisant des choses, mais c'est elle qui décide ce qu'elle a envie de faire pour aimer Jésus. Elle se dit à Jésus qui vient, bon ben, je suppose qu'il veut un bon repas et que je le serve bien, donc c'est ce que je vais faire. Elle ne l'écoute pas. Elle choisit, elle, comment elle a envie de servir Jésus. Avec Lindsay, on lit un livre qui s'appelle, c'est un livre en anglais, qui s'appelle « Les cinq langages de l'amour », qui a été écrit par un gars qui explique qu'on a, en tant qu'humain, cinq manières d'aimer ou de recevoir, de ressentir l'amour. Il y a une question de cadeau. Si quelqu'un nous fait un cadeau, ça nous fait plaisir. Si quelqu'un passe du temps avec nous, si quelqu'un nous parle, discute, je sais plus, on est en, je sais plus. J'apprends encore, hein, mais... L'idée dans ce livre, c'est que la personne, quand on est marié, on a une personne qui reçoit l'amour. En gros, il dit, il y a deux langages prédominants. C'est les langages qui nous permettent vraiment de ressentir l'amour. Je sais pas, pensez-y. Est-ce que vous préférez que quelqu'un vous fasse un cadeau ou passe une après-midi avec vous? Est-ce que vous préférez qu'il vous dise certaines choses ou... Et dans ce livre, ce qu'ils disent, c'est qu'en gros, moi, j'ai mes deux langages préférés et Lindsay, elle a les deux siennes, par exemple. Et moi, avec mes deux langages, pour aimer Lindsay, en général, en homme égoïste, en humain égoïste, je vais essayer de l'aimer avec mes deux langages. Je dis, moi j'aime bien recevoir des cadeaux, donc je vais lui faire des cadeaux. Et Lindsay, c'est pas ses langages. Donc Lindsay, elle le ressent pas comme de l'amour. C'est moi qui sois choisi. Et le livre, il dit, bon bah, il faut que tu écoutes ce qu'elle est en train de te dire, que tu comprennes quels sont ses langages, ce qu'elle a envie de recevoir, et tu l'aimes de cette manière-là, même si c'est contre nature pour toi. Et c'est ça avec Jésus. Marthe, là, elle est en mode « je l'aime en faisant ce que j'ai envie de faire ». Et nous, c'est souvent notre manière de servir Jésus. Souvent, moi, je me dis « bon, bah, Jésus, cette semaine, il sera super content si je repeins le plafond là-bas, dans l'église. Il a envie que je fasse ça. » Mais finalement, c'est moi qui décide. J'écoute pas forcément. Dans le service à Dieu, on a tendance à faire ça. Quand on fait ça, on se fatigue, on se frustre, on regarde les autres et on se dit « mais ils n'ont pas compris que Jésus, il avait besoin qu'on repeigne le plafond ce matin ». Mais non, en fait, c'est moi qui avais besoin. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, ça ne veut pas dire que Jésus se dit « non, c'est nul, ça ne sert à rien », mais c'est que je ne l'écoute pas, je ne veux pas savoir ce que lui, il veut. C'est Marie, elle, qui a compris, qui écoute, qui se met à ses pieds, qui passe du temps avec lui, qui profite de sa présence. Est-ce qu'on écoute? Est-ce qu'on prête attention? Est-ce que quand on entend quelque chose que Dieu nous dit, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on le note? Est-ce qu'on le ressasse pour nous? Si c'est quelque chose de dimanche matin, si c'est quelque chose quand vous lisez la Bible, si c'est quelque chose que vous entendez par quelqu'un, j'en sais rien. Est-ce que vous écoutez? Quelle est la dernière chose que vous avez eu l'impression d'avoir entendue de la part de Jésus? Écoutez, mettez-vous à ses pieds. On regarde et on se dit on a besoin de réveil, on a besoin d'unité dans l'Église, on a besoin de discussion, de débat avec les non-chrétiens, on a besoin de toucher le monde. En fait, on a besoin de se mettre au pied de Jésus et d'écouter sa parole, d'écouter la Bible, d'écouter ce que lui nous dit. Et c'est un choix qu'on doit faire. Il y a plein de choses qui luttent pour notre temps et notre attention. La vie, c'est une longue série de choix, vous le savez ça. Vous savez que notre vie, c'est une cascade, c'est une conséquence, c'est une rivière de choix qui finit quelque part. On a certains attributs de base sur lesquels il y a des choses qui nous arrivent qu'on peut pas, sur lesquelles on peut pas influer, mais il y a plein de choix. Et souvent, moi, j'ai l'impression qu'il faut dire non à beaucoup de choses pour pouvoir dire oui à une chose. J'ai choisi une femme. Et d'une certaine manière, je dis non à toutes les autres. C'est pas que je suis là à me dire oh là là, d'accord, on est d'accord. C'est que comprenez-le bien, il y a plein de choses qui peuvent prendre votre temps. Il y a plein de choses qui peuvent récupérer votre attention. On dit oui à un endroit, on dit oui à une ville, on dit oui à une carrière, à une éducation, on dit oui à certaines choses, à des amis, à des gens qui nous demandent des choses, on dit oui ou non. Il y a toujours ce, et ça nous mène quelque part. On doit se résoudre à quelle est notre intention. Qu'est-ce que vous voulez? La sagesse dans la vie, c'est la sagesse, c'est pas simplement prendre des bonnes décisions qui sont bonnes sur le moment. C'est pas de se dire au resto, j'ai choisi le bon plat que le chef fait le mieux. C'est pas la sagesse, c'est faire les bons investissements. C'est prendre les choix qui, sur le long terme, vont amener les bons résultats, les choses que je veux. La Bible nous dit quoi à propos de là où est notre cœur? C'est notre trésor, c'est le choix qu'on fait, c'est les choses qui nous motivent, c'est l'intention, ce qu'on veut faire qui doit dicter nos oui et nos non. Sans faire de marketing, la compagnie Apple qui fait des produits technologiques que vous connaissez tous, il y a deux ans, ils avaient une conférence où ils annoncent leurs nouveaux produits, etc. Et ils ont fait une petite vidéo où ils expliquent que dans leur processus, dans leur procédé, dans leur manière d'aborder leurs produits, ils sont confrontés à des milliers de choix. Et la conclusion, c'est pour chaque fois qu'on dit 1000 fois non, on va dire une fois oui. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on a décidé de vouloir faire certaines choses dans nos produits, et ça nous dicte. On dit non parce que ça ne correspond pas à ce qu'on veut. Non parce que ça ne correspond pas à notre objectif. Je sais que c'est dur. Il y a le travail, la famille, les amis, les études, la télé, l'internet, Facebook. Les statistiques, c'est quoi? Vous avez déjà vu récemment les études statistiques sur la population dans le monde occidental. C'est des choses incroyables, quoi. On regarde des quantités de télé, d'internet hallucinantes, quoi. C'est genre 4-5 heures de télé combinées à 3-4 heures d'internet. Maintenant, on a la télé avec le téléphone. Il y a une attention. On est d'accord, hein. Vous savez de quoi je parle, hein. C'est pas étranger. Quand vous essayez de vous concentrer sur quelque chose, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est dur? Pour lire un livre, alors peut-être par plaisir, on arrive à se concentrer sur certaines choses, mais on doit décider. C'est un choix à faire. Marie, elle pouvait aider, elle pouvait venir se mettre à ses pieds. C'est un choix. On aimerait bien, moi, encore une fois, je me dis, oui, alors s'il m'arrive un truc grave et que je peux plus, on arrive à des trucs tellement ridicules là à ce moment-là, je vais apprendre la Bible par cœur, quoi. Non, c'est un choix, c'est un choix et c'est un choix répété, c'est un choix tous les matins, c'est un choix qu'on fait dans nos vies. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voulez? Faisons le choix cette semaine de connaître Jésus. Faisons le choix d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Je rappelle la mise en garde dans Matthieu 7, 21. Quiconque me dit Seigneur, Seigneur n'entrera pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Choisissons ensemble de connaître Jésus. Choisissons d'écouter, d'entendre de lui. Pour finir, je me suis dit que, enfin, moi je parle, etc., mais c'est peut-être le mieux ce matin, c'est de simplement, on va lire la parole de Dieu ensemble et écoutons. Je vais lire tout le livre de 1 Jean. Et je pense qu'il y a des choses par rapport à l'obéissance qui vont vous sembler parallèles. Et après, on aura fini. J'espère que c'est pas trop long. 1 Jean 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. À ceci, nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare demeurer en lui doit marcher aussi comme lui, le Seigneur, a marché. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. D'autre part, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ceci est vrai pour lui et pour vous, car les ténèbres passent et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et ne risque pas de tomber. Mais celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, jeunes enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antéchrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint, et tous, vous avez la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez vous aussi dans le Père, dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous n'ayons pas honte devant lui. Si vous savez ce qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a donné puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas, quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, le Seigneur, est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Voici le message que vous avez entendu dès le commencement, aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas comme Cain qui était du malin et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde a de la haine pour vous. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque a de la haine pour son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde, qu'il voit son frère dans le besoin et qu'il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu demeurera-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici son commandement, que nous croyions au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leurs paroles viennent du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il nous a donné de son esprit. Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car voici le témoignage de Dieu, c'est qu'il rend témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Cela, je vous l'ai écrit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, et il y a tel péché qui ne mène à la mort, mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche pas, mais celui qui est engendré de Dieu le garde, et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est au pouvoir du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable, et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jésus, on est tellement mauvais, on est tellement loin de ta volonté, tellement souvent dans nos vies. Jésus, aide-nous à obéir. Aide-nous à faire les choix qui montrent qu'on t'aime. Aide-nous à obéir. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour t'aimer, pour aimer nos prochains, pour obéir à ta parole, Seigneur, pour grandir en toi. Protège-nous, garde-nous sensibles à ta parole, qu'elle puisse faire son travail, nous reprendre, nous changer, Seigneur. Ne nous laisse pas nous rendre insensibles à toi, à ta parole. Ne nous laisse pas nous arrêter, philosopher, Seigneur. Aide-nous à obéir, à faire le bon choix, à t'écouter, à entendre ce que tu nous dis et à obéir, Seigneur. Merci pour ce temps, Seigneur, et fais-nous grâce. Et Jésus, merci parce que tu nous as aimés le premier. Amen.